Bonjour et bienvenue à l'écoute du premier numéro de Parole aux auditeurs de la série, émission 100% interactive de Radio Capi, une tribune d'échange et de discussion pour vos auditeurs sur des sujets qui vous intéressent. Le samedi dernier, s'est clôturé les travaux de la conférence des chefs d'établissement supérieur et universitaire des 11 provinces de la RDC. Environ 600 participants sont venus de l'ensemble du territoire. Ils ont fait un diagnostic de l'enseignement supérieur et universitaire et ont pris des décisions pour l'améliorer. Vous le savez, une société en voie de développement ou en mutation comme la RDC a besoin des élites. Et c'est dans les universités et instituts supérieurs que sont formés ces futurs cadres. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Donc, parole aux auditeurs pour lancer notre discussion. Voici la question, selon vous, comment améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités et instituts supérieurs? Nous aurons en ligne le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Mashako Mamba. Il sera notre invité tout au long de l'émission. Vous avez des propositions, des avis, vous voulez vous exprimer, contactez le 0-81-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Kissi Mafoufou, Nadine Loukeni, Nicole Taka, sont à la réalisation de cette émission. Sidi Marquis est à la maison.
Parole aux auditeurs.
Aujourd'hui, nous en parlons ce qui concerne en fait l'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est tenu la semaine dernière du 9 au 13 des travaux en vue de reformer l'enseignement supérieur et universitaire. Plusieurs chefs d'établissement ont été sur place. Ils ont essayé de pouvoir faire un diagnostic de l'enseignement supérieur et universitaire et trouver des remèdes en vue de l'améliorer. Vous voulez participer à cette émission, nous avons déjà plusieurs auditeurs qui veulent s'exprimer, comme Eric qui est à Calémi dans le nord de la province de Katanga. Bonjour Eric.
Bonjour, c'est Félix Kawaya depuis que je dis mon père Eric.
Oui, Félix Kawaya, dites-nous, vous connaissez comment ça se déroule chez nous, vous avez aussi peut-être une université ou un enseignement, un institut supérieur chez vous à Calémi, mais selon vous, que faut-il faire pour améliorer la qualité de l'enseignement chez vous?
Oui, merci beaucoup à Radio Capi de m'avoir associé à cette émission. Bon, ici chez nous à Calémi, bon, c'est une nouvelle ville là où nous avons constaté la prolifération des instituts supérieurs et des universités. Mais un élément qui est capital à souligner, c'est qu'au niveau de notre gouvernement, en l'occurrence, c'est le ministre Mashako Mamba qui est là. Alors pour nous, les étudiants, ça constitue comme une déformation totale. C'est ainsi ici chez moi à Calémi. Bien sûr, nous sommes des milieux. On a constaté que depuis son intervention de son excellence, on a constaté qu'après l'arrivée de certains professeurs aujourd'hui, qui vont venir en mettre ici. Comme proposition, je demanderai aux autorités politiques administratives qui nous portent là, avec la fédération que l'on m'a là, est-ce que quand ils allaient livrer les arrêtés ministériels pour ouvrir les universités, alors on ne tient pas compte de ce qui termine, est-ce qu'ils auront des places? Est-ce que la viabilité des universités est là par rapport à des bâtiments, disons la liberté, tout ça? Mais je sais combien des intellectuels qui quittent le pays pour aller se développer ailleurs. Nous, ici, nous constatons qu'il y a manque les professeurs qualifiés. Non seulement les étudiants, mais aussi les professeurs qui nous arrivent, parce qu'ils ont une certaine maturité scientifique pour nous former, nous, qui sommes en pleine formation.
Donc, c'est autant de questions que vous posez, Félix, que vous êtes à Calémie, mais ce que nous pouvons aussi retenir, hein, parmi toutes ces questions, vous souhaitez aussi qu'on puisse réguler, en fait, l'ouverture des universités et qu'on puisse continuer, en fait, cette enquête de viabilité qui pourra permettre de renforcer les capacités des étudiants. Si on a les bonnes universités, on a les bons enseignants, c'est mieux que d'avoir, même si on n'a pas suffisamment d'universités, c'est mieux que d'avoir une grande quantité des universités où les conditions d'enseignement ne sont pas du tout bonnes. Merci Félix pour votre participation. Bonjour Richard.
Oh, voilà.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Ok, moi, je voulais d'abord féliciter le ministre de l'enseignement supérieur universitaire parce qu'il était vraiment très actif sur le terrain. Nous l'avons vu en train de visiter plusieurs universités pour voir, remarquer leur viabilité. Et puis ceux qui n'étaient pas viables, il les a fermés. Mais moi, je voulais proposer pour que l'enseignement supérieur universitaire puisse bien marcher dans l'avenir, qu'on puisse fusionner les deux ministères-là, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et l'enseignement supérieur universitaire. Parce que nous nous rendons compte que ce sont les élèves qui viennent des humanités qui posent souvent problème, qui ne sont pas adaptés à faire des études universitaires. Bien qu'ils réussissent avec beaucoup de pourcentages, mais ils ne parviennent pas à s'adapter à l'enseignement supérieur universitaire. Si c'est le même ministère, c'est le même ministre là qui est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui est en même temps le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, il aura une vision à imposer, ou soit une des conduites. Parce qu'aujourd'hui, le pays a besoin des listes qui peuvent contribuer à la reconstruction de ce pays ici. Donc, il est très nécessaire qu'on puisse former beaucoup plus les élèves qui peuvent faire des enseignements techniques et professionnels à supérieur, ou soit qui seront adaptés à faire des enseignements qui vont servir à transformer leur environnement immédiat.
Merci, Richard. Donc, vous pensez qu'il serait préférable qu'on ait un seul ministère, peut-être de l'éducation, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, à l'époque, on avait un ministère comme ça qui regroupait et l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que l'enseignement supérieur et universitaire. Merci, Richard, pour votre proposition. Nous prenons le dernier de cette première série, il s'agit de Mabanza. Il est à Kinshasa. Bonjour, Mabanza.
Oui, bonjour, madame, et bonjour à la radio Capi.
Oui, selon vous, que faut-il faire pour améliorer la qualité de l'enseignement dans
les oui, madame, c'est avec des larmes que vraiment la parole est prise, parce que, madame, vraiment, comme je l'ai toujours dit, que l'enseignement au Congo, si on n'arrive pas vraiment à arrêter cette hémorragie, vraiment, nous aurons importé des personnes. Madame, les étudiants congolais, surtout les étudiants congolais, qui sont placés dans des conditions qui ne sont pas pédagogiques, madame, où des salles de classe se transforment à des marchés de gambela, ou encore, par exemple, des portables allumés dans des salles de classe, et même salles de classe-là qui ne sont pas viables, ou des auditoires qui ne sont pas viables, ce n'est pas d'écritoire, pas de madame. L'étudiant qui est venu à 8h, jusqu'à 17h, l'étudiant est debout. Allez-y comprendre. D'abord, cet étudiant, il a fait la marche de Ngiringir Satanitan. Il vient dans l'auditoire, pas même de place. Mais vous voulez que cet étudiant, à la fin de l'année, qu'il passe avec foi dans la classe montante. Deux, pas même des bibliothèques riches dans des milieux universitaires. Quand vous entrez dans les bibliothèques, madame, les conseils très amers, vous allez trouver des textes de mémoire. Il n'y a rien, madame. Allez-y comprendre. Nous formons qui et de notre sujet d'accord qui pour la technologie. Madame, à ce niveau-là, nous passons encore pour l'enseignant. Hormis les étudiants, nous passons maintenant pour l'enseignant ou le professeur. Madame, un professeur qui est toujours aussi mal payé, un professeur en famille, un professeur comme ça, c'est qu'il est avec par la misère. Il donne quoi à cet étudiant? C'est qu'en d'autres termes, madame, si on n'arrête pas l'hémorragie, je répète, toujours nous aurons à effronter les gens dans ce pays. Pour sauver cet enseignement, que l'État congolais puisse considérer l'enseignement qui est la clé fondamentale pour le développement d'un pays. Même notre budget ici, allez-vous comprendre, quel est le les morceaux qu'on avait réservés pour l'éducation. L'enseignant, on sait encore, le professeur d'université, il n'a pas même le temps de faire des recherches. Il va nous donner quoi? Un adage qui dit, on donne ce qu'on a. Et le professeur, il nous offre quoi pour nous donner? En dehors de cet adage, vraiment, je l'ai dit pour l'enseignement au Congo, vraiment, je ne sais pas, il faut encore faire quoi. C'est ça, en tout cas, qui était ma compréhension, madame.
Donc, autant de questions, autant de préoccupations. Merci, Mabanda, pour votre intervention. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons prendre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui est déjà en ligne.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, madame la rapporteure.
Nous avons déjà débuté notre émission. Nous parlons de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'est tenu les travaux d'une conférence des chefs d'établissement supérieur et universitaire des 11 provinces de la RDC et presque plus de 500 participants, presque 600 participants. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le ministre, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre?
Merci beaucoup et je voudrais d'abord saluer les intervenants et à travers saluer tous les auditeurs de la radio Capi. Je partage d'abord l'analyse des états des lieux que Félix ou Matanza a donné, ainsi que le deuxième intervenant, je n'ai pas pu retenir son nom. Effectivement, le secteur est malade et il était important donc de pouvoir avoir le même diagnostic. Et c'est pour ça que nous avions en français réuni tous les chefs des établissements de l'ensemble du pays, qu'ils soient du secteur public ou privé, de faire une même analyse et de voir si les pistes de solutions que nous proposons peuvent rencontrer l'opinion de ceux qui sont sur le terrain, ce qui leur dit que les mots sont tellement graves et profonds que nous devons avoir un sursaut pour y faire face. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense nous avons rappelé que, et c'est ce que Mabanza disait, l'éducation est la clé du développement. Il y a aucun pays au monde qui peut aller très loin s'il n'a pas pris le soin de bien former depuis la maternelle, le primaire, le secondaire, enfin le supérieur universitaire. Et notre pays, il doit effectivement savoir que les normes sont violées dans la plupart des cas, le problème d'infrastructure, le problème de la qualification des enseignants, les équipements, la bibliothèque, les laboratoires. Mais à côté de ce conseil général et la prolifération qui est un autre fléau, il est quand même rassurant de voir que il y a des petites choses qui commencent à bouger dans la bonne direction. Il y a des institutions qui s'adaptent aux normes. On a vu à Kinshasa ce qui était viable. Nous avons encouragé ce qui n'était pas viable, nous avons fermé. Et le processus, nous aurons l'occasion de le dire, va commencer déjà ce mois de juin pour les quatre plus grandes provinces du pays en termes d'étendue, pour arriver là aussi à conforter les établissements qui répondent aux normes et fermer sans hésiter ceux qui ne répondent pas aux normes, donc qui ne forment pas des hommes et des femmes capables de mettre des études à la nature.
Monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois qu'il se tient ici en RDC des travaux sur la réforme de l'enseignement supérieur universitaire. Il y en a eu en 1971, 1981, 1996. Il y avait même ces états généraux de l'éducation et en 2003, il y avait encore eu ces rencontres, des travaux, mais toujours le constat était le même tout au long de ces années-là, l'inadéquation entre la formation universitaire et le monde de l'emploi, l'incapacité de former des agents de développement national et pris dans un sens aiguisé de nationalisme, de conscience professionnelle, de respect des biens communs, aussi la difficulté d'entreprendre des recherches axées sur des solutions à des problèmes de la société. Qu'est-ce que ces nouveaux travaux vont apporter de nouveau?
Il y a une différence fondamentale, que ce soit la réforme de 71, de 81, les états généraux de 2002, la différence fondamentale est que pour la première fois depuis que l'enseignement supérieur de fait dans notre pays, nous n'avons pas invité quelques délégués ou quelques spécialistes. Nous avons invité tous les chefs d'établissement, donc les numéros 1, accompagnés d'un autre membre du comité de gestion. Et en prenant non seulement les chefs d'établissement du public, mais aussi ceux de privé. C'est une manière depuis 1954, 1954, l'ouverture de l'Université Lomanium devenue l'Université de Kinshasa. Donc, un pareil forum n'a jamais existé auparavant. Deuxièmement, au même moment, nous avons vu, parce que les visites sur le terrain, comme on l'appelait Félix de Calémier, nos descentes dans différents établissements qui se sont réunis, nous a permis de déceler. Il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. Et la question que je posais le jour où j'arrive à l'Istan en 98, en 2008, je pose la question, est-ce que les ministres viennent voir, me dit non. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs qui ont déjà vu ces œuvres des antiquités, me dit non. Est-ce que la SEC et l'opérateur ont déjà vu ces réalisations, me dit non. C'est de là que m'est venu l'idée en décembre 2008, qu'il y avait l'urgence que nous puissions nous organiser pour montrer aux autorités nationales, montrer au corps diplomatique, montrer aux opérateurs et gros de 80 que malgré les difficultés, il y a des choses extraordinaires, des vraies inventions de génie qui doivent être connues pour que l'État, les partenaires, les parents, tous ceux qui puissent d'abord être fiers de ce génie qu'il y a dans notre jeunesse, et surtout examiner comment nous pouvons valoriser ces recherches. Et donc, c'est la toute première fois depuis que l'enseignement supérieur de Père existe qu'on a fait les expositions de l'œuvre, des œuvres d'art, des œuvres de l'esprit. Et je peux vous dire que les leçons qu'à nous tirer, que ce soit le premier ministre chef du gouvernement, le corps diplomatique, la SEC et ses branches, les parents. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, c'est quelque chose d'unique. Nous avons maintenant au moins la possibilité de faire la liste de toutes les inventions qui se font dans nos universités. Et c'est ça, la liste de l'université, il faut créer pour que demain, c'est comme ceci que nous cherchons très loin. Maintenant, nous savons que nos enfants congolais y ont travaillé et maintenant, on a mis à jour, on a montré et il faut maintenant mettre ça sur le plan maintenant de la productivité à plus grande échelle.
Oui. Nous allons écouter aussi Clarisse qui nous appelle ici, elle est ici à Kinshasa, l'honorable Mbuluyo qui est aussi en ligne, tout juste après ceci.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Clarisse, on vous écoute. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités et instituts supérieurs?
Merci beaucoup de m'avoir associé à cette tranche spécialisée. Je viens de suivre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il parle des avancées, il parle des constructions. Mais moi, je voudrais quand même insister sur le climat qui règne dans la gestion de ces différentes des institutions supérieures, tout comme les universités. Vous êtes sans ignorer que de plus en plus, le Minerval est fixé, ce sont les parents qui contribuent un peu au paiement d'enseignants, tout comme au paiement des encadreurs. Et parfois, les parents sont, se retrouvent devant des situations qui font qu'ils se retrouvent pris en otage par ces universités et par ces instituts supérieurs. Parce qu'on demande aux parents de payer, et en contrepartie, quand on regarde la manière dont les enfants sont traités, la manière dont ces universités sont gérées, ça soulève des questions, ça soulève des interrogations aussi. Je veux vous rappeler, madame la journaliste, il y a un cas qui est d'actualité, c'est celui de l'université catholique de Kinshasa. Malgré les frais académiques payés, suite à une revendication d'amélioration des conditions de vie et des conditions d'études des étudiants, il y a eu des exclusions massives. Et jusque-là, les parents ne savent pas à faire sans se vouer, parce qu'après 45 jours d'exclusion, les enfants qui sont en terminale, il n'y a toujours pas une solution par rapport à ces dossiers-là, je me demande, on veut améliorer les conditions d'études, on veut améliorer l'enseignement, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'on est en partenariat dans ces universités, les parents, les enfants et tout comme les enseignants. Et donc, je voudrais que le ministre nous dise comment améliorer le climat des universités tout en préservant les droits des uns et des autres. Moi, c'est ça la grande question, parce que jusqu'au moment où je vous parle, les enfants sont dehors et ça fait 45 jours. Mais avec ce genre de comportement ou d'attitude, comment voulez-vous que l'enseignement puisse prospérer?
Oui, j'avais donc des étudiants qui ont été révoqués parce qu'ils ont manifesté.
Ils ont manifesté, ils ont déposé un mémorandum dans lequel ils demandaient l'amélioration des conditions d'enseignement, l'amélioration du cadre d'études, ça veut dire l'élargissement de leurs auditoires. Et à la fin, ils ont exigé aussi, comme toujours, le départ de celui qui est l'actuel gestionnaire.
Mm-hmm.
Et malheureusement, l'histoire s'est transformée en un Far West où on a chassé les étudiants disant qu'ils ont violé, ils ont bafoué l'éthique de l'Église catholique. Moi, je me demande si vraiment on est rentré dans le cadre des gens pour qu'ils deviennent l'élite de demain. Est-ce que c'est la meilleure sanction que de prendre des enfants et les mettre dans la rue?
Mmh. En tout cas, merci beaucoup Clarisse, le ministre qui vous écoute. Il est toujours en ligne, on sera avec lui tout au long de l'émission pour vous donner une réponse à votre préoccupation. Encore une fois, merci pour votre intervention. Nous avons l'honorable Mbouluyo, il est, nous appelle ici à partir de Kinshasa. Bonjour, honorable.
Bonjour, journaliste. Merci beaucoup pour m'avoir appelé.
On vous écoute. Qu'est-ce que pour vous, quel vote est-il pour améliorer en fait la qualité de l'enseignement dans les universités et instituts supérieurs?
Bon, et dernièrement, ici, tous nous vivons les efforts que nous faisons de mener les ministres de l'Université pour l'enseignement de qualité. C'est beau, mais autour de cela, il ne faut pas suivre seulement que ce soit un enseignement de qualité, mais les conditions aussi dans nos universités, les conditions et l'état moral, l'état intellectuel, spirituel, même des enfants. Comme madame Kalis l'a dit, j'ai vraiment, je voudrais très bref, j'ai pas quelque chose. Moi, j'appelle ça un triathlon au niveau des universités catholiques. Nous avons été saisis de schémas comme ça, nos parents, de l'envoi des victimes de nos enfants à partir du mois d'avril, précisément du 10 avril, ainsi de suite. Alors que la femme avait adressé un mémo à la CENCO en tant que disponible master. CENCO a attendu les victimes, CENCO a trouvé que, bon, quelque part, les enfants passent de leur expérience et qu'ils ont appliqué les victimes. J'avais des préoccupations à deux points, au point où je crois que depuis la situation, les spécifiques seront en train de réguler dans une telle partie des manifestations sans respect des procédures qui se verront exclues. Quand on parle de manifestations, je sais que notre rapport est bien, que nous avons réclamé une belle croix, puisque les installations ne sont pas convenables. Les salles d'espace de réponse du phare. Il faudra continuer à améliorer, à grandir. Et tout ce qu'ils ont fait, la manifestation de la question, c'est à l'intérieur, à la pièce même de l'institut. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Oui, s'il vous plaît, honorable Mbouluyo, vraiment au-delà de ces situations qui se déroulent à l'université, aux facultés catholiques ici à Kinshasa, est-ce que vous pensez qu'il y aurait aussi autre chose, parce que c'est une situation qui est dans cette université-là, mais au niveau national, vous êtes parent, vous êtes député national, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour améliorer en fait la qualité d'enseignement?
La qualité d'enseignement pour améliorer, parce que je sais que c'est une université, c'est une université privée, mais c'est une université qui est démocratique, qui fonctionne en République démocratique du Congo. Quand les études déchirent, voilà, pour améliorer, il faut que des syndicats, des soins, répondre aux normes. L'enseignement de qualité, mais ce n'est pas notre qualité qui est là-bas. Mais les enfants, qui sont autant que les étudiants, il faudrait aussi savoir que les encadrés. C'est pas grave, aujourd'hui, ça fait 47 jours qu'on veut dire qu'on a gardé nos enfants. Les parents sont réunis, nous avons procédé, en tout cas, des états d'affaires au feu de l'Église catholique pour que la sanction soit réduite. Dans les autres actions, la chasse est encore déployée en deuxième distance. Il y a 45 jours, bientôt ici, la session va commencer. Et ils vont venir. Donc, déjà, ils vont envoyer la rue. La sanction, nous trouvons que la sanction est mal dépassée, ça dépasse même ce que les enfants ont fait. Il y a des fonds, excusez madame, je vais dire, il y a les fonds, il y a la forme. Quand à la carte au fond, ils ont réclamé ce qui est vrai. La forme, on dit que les enfants ont dépassé, ils ont délivré l'église catholique. Mais cette action-là, en tout cas, je crois qu'il y a une conclusion à voir ça à la baisse des questions, les gens nous apportent ce temps les cours.
Merci pour votre intervention à partir de Kinshasa, honorable Mbouluyo. Bonjour, Arsène.
Bonjour, madame.
Vous êtes à qui Christian, on vous écoute.
Ok. En dehors de ce point du mes prédécesseurs, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose en plus? Moi, je dis ceci. Le professeur, notre invité, est parmi les gens que nous connaissons dans notre pays. Il est fait un peu d'observer l'époque où il a étudié, comment c'était. Et aujourd'hui, nous avons des grands défis à relever. Pour moi, je trouve que les illuminateurs qu'on met de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la qualité de nos études, il faut commencer par l'argent. Vous trouvez de l'argent et combien il faut pour d'abord, un, l'infrastructure, les matériels didactiques. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la technologie. Il faut qu'on évolue, qu'on essaie un peu d'établir ou d'élaborer un budget correct, un budget à qui est-ce qu'on va soumettre à la population tout entière, la population étudiantine comme la population en général. Enfin, on verra un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent, combien de bâtiments nous verrons, construire combien de chaises, combien de tables, tout ça. Il faut tout un défi là-dessus, qu'on essaie un peu de commencer d'abord à l'infrastructure. Les qualités, les cerveaux, nous les avons. Maintenant, nous devons passer au monde moderne, donc l'infrastructure et la technologie. Si nous réussissons sur l'infrastructure et la technologie, je crois que nous allons améliorer la qualité de nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui sort de l'université de Kine, par exemple, il a toutes les bonnes théories. Par rapport à celui qui sort avec le même diplôme à l'université de là-bas, par exemple aux États-Unis, quelle sera la différence? Notre étudiant, il va être obligé de passer presque 2 ans pour essayer d'apprendre le matériel didactique de la technologie actuelle qu'on utilise. C'est ce qui fait la défaillance, je crois, sur les étudiants, sur nos futurs cadres qui vont diriger ce pays. C'était ça mon intervention pour aujourd'hui.
Merci Arsène pour votre intervention à partir de Kikwit.
Parole aux auditeurs.
Professeur Macha Komamba, vous avez suivi nos auditeurs cette deuxième série. Il y a eu Clarisse qui a eu vraiment des préoccupations. Est-ce que vous pouvez lui répondre?
Merci beaucoup. Je voudrais saluer Madame Clarisse et lui dire que la situation des étudiants chassés de l'Université catholique du Congo, c'est la même préoccupation de l'honorable Mbouliou, c'est une situation que nous regrettons. Mais je voudrais tenir pour l'opportunité qui m'est donnée pour dire qu'en fait, l'aspect complexe, parce que les parents ne parlent que du moment qui a été envoyé pour demander l'amélioration des conditions. Mais je pense que les éléments à ma profession montrent qu'il y a d'abord un premier problème de tricherie pour les étudiants qui entraient. Comme vous le savez, nous avions sur un système d'examen, un test pour ceux qui ont des comptes de travail de 60%, et ceux qui avaient 60% en test, un bon nombre d'étudiants, des jeunes, se sont arrangés pour fausser les palmarès, mais malheureusement pour eux, lorsque, au moment du contrôle, on a pris le palmarès officiel de l'EPST, on va découvrir un jeu de tricherie. Et non seulement il s'est fondé, on a renvoyé les étudiants concernés et tous les agents administratifs de la direction de services académiques qui, moyennant argent, avaient contribué à cette inscription frauduleuse. Deuxième élément aussi, les parents n'en parlent pas. Il y a un groupe de jeunes filles qui, contrairement au règlement intérieur d'une université chrétienne, avaient des familles non décentes qui, elles aussi, ont subi la même décision. Mm-hmm. Alors, un groupe d'étudiants parmi lesquels il y a des jeunes qui sont en première, en deuxième licence, solidaires, pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent de leurs jeunes frères ou leurs sœurs, en fait, sont posés des actes de violence et comprennent que tout ce que disent les parents, c'est que les étudiants ont fait des violences à l'extérieur aussi, ont barré la venue de l'université et ça, ça nécessitait l'intervention de la police pour dégager la route. Le problème qui est posé est un peu complexe. Je pense avoir approché les autorités de l'université comme si une université privée, il y a des choses que l'État peut faire et qu'il ne peut pas faire. Au moment où nous parlons, je pense qu'après avoir approché les autorités de l'université, je vois maintenant un document que les parents viennent d'adresser au ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et à donc, à ce niveau-là, comme je suis saisi par la demande de parents, je demandais aussi de rencontrer officiellement les autorités de cette université pour examiner en détail pour que ceux qui ont une violation flagrante, que la sanction soit maintenue, que là où peut-être l'appréciation mériterait qu'on puisse la réexaminer, qu'on puisse nous pencher. Donc, c'est un dossier pour lequel c'est une université privée. Il y a des choses pour lesquelles le ministre peut agir, pour lesquelles il ne peut pas agir par rapport aux conventions que l'État a signées avec les partenaires privés. Donc, c'est un cas qui est douloureux, mais je voudrais que les parents aussi soient lucides pour qu'ils ne voient pas seulement une seule version. Mais Mme Clarisse a soulevé un autre problème important qui est le problème de financement. C'est vrai aujourd'hui, nous devons féliciter, remercier l'engagement des parents. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler les sources de financement de l'enseignement tel que ça se fait dans toutes les universités du monde. C'est d'abord l'État pour les établissements publics. Pour les privés, c'est les parents, c'est la société. Et la quatrième source de financement de l'enseignement supérieur ou de l'éducation, c'est le patrimoine public privé. Et enfin, la cinquième et dernière source de financement, c'est la coopération entre bi et multilatérale. Et ceci m'amène à parler et saluer Arsène qui a soulevé des problèmes fondamentaux. Vous savez, aujourd'hui, le budget de l'enseignement supérieur universitaire pour l'année académique, pour l'année 2010, il est atteint de 1,6 du plan ensemble du budget de l'État. Donc, d'un côté, nous avons cette volonté, mais de l'autre côté, les moyens sont faibles. Et c'est pour ça que je cesse de rappeler à tous ceux du secteur. Il y a 5 sources de financement, tout le monde regarde que l'État, et le peu de ressources que les parents donnent sont souvent mal gérées. Et vous comprenez pourquoi on sanctionne régulièrement lorsque, après audit, nous avons ces constats. Mais je voudrais rassurer Arsène qu'aujourd'hui, l'informatisation, donc les nouvelles technologies de la commune de la commission, c'est un des piliers de la formation que nous sommes assignés. Je peux lui dire qu'en un an, nous venons de voir notre enseignement s'enrichir de plus de 20 000 ordinateurs. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir 2 millions d'ordinateurs avec les interconnexions sur Internet pour l'ensemble du système. Nous sommes en train d'interconnecter 8 universités sur l'ensemble du territoire. Nous sommes en train de travailler maintenant sur l'interconnexion technique de 20 universités. Et effectivement, il n'y a pas d'avenir si les nouvelles technologies de la communication ne deviennent pas le moyen d'enseignement, de recherche et d'ouverture au monde. Donc, je le félicite pour cette vision. Nous travaillons, nous sommes engagés. Et si c'est le tour dans les grands établissements, les petits établissements, par rapport à l'année passée, vous verrez que l'introduction de l'outil informatique dans la formation est en train de changer le visage de l'enseignement supérieur. Nous avons des difficultés, mais je peux vous dire à l'exposition, j'étais heureux de voir le nombre de logiciels que nos jeunes étudiants et leurs encadrés ont donné de nouveau. Bien, c'est plus de 5 ans nouveau logiciel. Donc, nous sommes en train de ce domaine-là. Il y a des choses qui sont en train de changer. Nous souhaitons que les parents, l'État, bien sûr, et les partenaires puissent être attentifs, regarder cet enseignement supérieur qui est en train de changer. Et donc, nous pensons qu'on ne peut pas désespérer. Petit à petit, nous sommes en train d'entrer dans la modernité.
Mais la finalité, en fait, des étudiants, c'est à la fin de trouver de l'emploi. Mais on constate qu'il y a vraiment un grand problème. Alors, on a l'impression qu'il y a cette inadéquation entre la formation universitaire et le monde de l'emploi. Qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce sens-là?
Deux choses doivent être faites. Je m'excuse de dire qu'on ne peut pas redresser l'éducation si nous ne redressons pas les ISP. pour tout ce qui est bâtiment primaire secondaire général et les ISPT pour tout ce qui est au niveau secondaire, les filières professionnelles et techniques. Donc ça c'est un élément déjà pour que, c'était la question du deuxième intervenant, pour que l'enseignement supérieur puisse donner un appui au niveau de l'ISPT pour relever le niveau pour que cette famille des humanités puisse arriver à l'université en ayant un bon niveau. Parce qu'actuellement, il ne faut pas qu'on se cache les yeux, nous avons un problème par la qualité des enseignants au niveau du primaire et du secondaire. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une relation entre le milieu de formation et les employeurs. Voilà pourquoi, non seulement nous avons tenu à avoir nous avons fait des contacts avec la FEC, la NEF, la COPEMECO et la CENAFEC, nous voulons qu'il y ait un profil lorsque nous trouvons les gens qui correspondent au milieu du travail. L'objectif d'avoir un enseignement qui soit un producteur de chômeurs. Nous devons produire des jeunes qui correspondent au profil des emplois. Voilà pourquoi les négociations que nous avons commencé avec le patronat va nous permettre dans toutes les provinces d'ouvrir les portes de stage pratiques dans les entreprises pour que les étudiants avant qu'ils n'entrent dans l'emploi déjà connaissent la philosophie du travail et quand nous formons et nous diplômons ces jeunes qui puissent déjà ne pas rester à la recherche de l'emploi parce que nous aurons mis un pont entre les futurs employeurs et le milieu d'éducation. Nous devons bien sûr diminuer tout ce qui est enseignement théorique et favoriser ce qui est enseignement pratique. Voilà pourquoi nous exigeons là le but de viabilité. Lorsque les institutions n'ont pas élaboré, n'ont pas d'atelier, alors qu'ils diplôment des ingénieurs, nous devons fermer parce qu'on ne peut pas continuer à vendre du moins. Et donc, nous sommes en train progressivement de nous adapter pour qu'il y ait cette adéquation dans la qualité de la formation et l'adéquation avec le milieu de l'emploi. Et nous sommes heureux que d'abord la FEC est venue visiter l'exposition et la FEC a eu l'occasion de s'adresser à l'ensemble des chefs d'établissement parce que nous ne pourrons pas continuer à former comme par le passé. Nous devons nous assurer que nous sommes en phase avec le milieu du travail pour que lorsqu'on termine, on soit facilement adapté à aussi la psychologie du monde du travail.
Oui, monsieur le ministre, nous allons écouter aussi Jean Bongol de Mbandaka pour l'idée de Kindou.
Le 5 en clair, on en parle dans Parole aux auditeurs.
En juin, chaque mardi, émission spéciale orientée sur les perspectives d'avenir. Mardi 15, le budget de l'État et l'industrialisation. Mardi 22, sécurité, une armée à la dimension du pays. Mardi 29, quelle politique étrangère sur la scène internationale.
50 ans d'histoire, Côte discute avec vous dans Parole aux auditeurs sur Radio Capi. Chaque mardi, à partir de 11h.
Bonjour, Joël Bongol.
Madame.
Et on vous écoute. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités et études supérieures?
Il faut mettre en place un certain nombre de critères et une certaine rigueur en ce qui concerne le recrutement du personnel enseignant. Vous savez, aujourd'hui, madame, ici, un conseil à un étudiant qui lui facilite la tâche, surtout dans ses relations avec les autres personnes privées, il va lui dire non, comme l'emploi est difficile à l'RDC, je vais vous aider à définir comme ça, vous serez retenu assistant. Alors que distinguer n'a rien à voir avec avoir les dons de transmission ou être capable de. C'est ça aussi le problème. Et quand par rapport au recrutement des étudiants, il faut aussi mettre des critères. On ne doit pas recruter tout simplement parce qu'on a un diplôme d'État et on doit accéder facilement à l'université comme ça se fait aujourd'hui. Et deuxièmement, je peux dire que, comme le ministre est là, si on peut procéder à la nomination des prêtres catholiques dans tous les secrétariats généraux des universités, avec ça, la qualité de l'enseignement supérieur universitaire pourrait être améliorée.
Parce que vous pensez que les prêtres catholiques sont crédibles, c'est un peu ça, ils sont très rigoureux.
Oui, parce qu'ils sont sérieux. Ils sont sérieux et s'ils sont au niveau du secrétariat général académique, ils ne vont pas laisser à qui que ce soit de faire ce qu'ils veulent comme ça se fait aujourd'hui. Et j'estime qu'ils vont lutter contre la corruption qui a été domicile dans une université de la RDC.
Oui, Joël Bongol, pour vous, plus de rigueur dans le recrutement des enseignants, dans l'inscription même des étudiants. Merci pour votre intervention. Bonjour, Polybé.
Bonjour, madame.
Oui, Polybé, on vous écoute.
Oui, merci. Je dois d'abord corriger une chose. Hein. Mm-hmm. Le chemin du ciel ne passe jamais par les pasteurs. Comment améliorer l'enseignement supérieur universitaire en RDC? Il y a cinq solutions.
Mm-hmm.
La première, il faudrait un ministre conseiller, c'est-à-dire un ministre qui n'a pas un pic facile pour suspendre, ou un monsieur arrêté suspendant. Donc un ministre qui ne signe que les arrêtés suspendant le fonctionnement de telle ou telle université. Il doit être un conseiller. Améliorer ne signifie pas suspendre. Deuxièmement, tenir compte du boom démographique que connaît la RDC. Que nos enfants cessent d'étudier dans les auditoires de la taille du stade des martyrs. Il faut décentraliser l'enseignement supérieur universitaire. Je donne le cas fait que l'étudiant d'université ouverte se soit suspendu d'une manière qu'il a voué par lui. Et troisièmement, au gouvernement d'allouer un budget conséquent à l'enseignement supérieur universitaire pour pouvoir permettre la construction des auditoires. Comment voulez-vous, madame, qu'un DG ou un recteur ait une maison de lits alors que son établissement loue un bâtiment du primaire? Et je dois vous parler de ce qui se passe à Kindou et les relations. Hein, car c'est ça, c'est la quatrième proposition. Il faut mettre fin au système, mon frère est là. Hein, qu'on appelle actuellement à qui nous pied derrière quoi. C'est-à-dire qu'il faut être fils ou fille, faire ou frère de l'un des enseignants pour bénéficier des avantages beaucoup plus supérieurs par rapport aux autres. Je dois encore vous signaler qu'à Kindou, on paie 150$ de frais d'entraînement de diplôme en troisième graduation. $150. Donc, le ministre, ça c'est la dernière proposition, le ministre qui n'organise pas convenablement ce secteur. Nous avons tous confiance à lui. D'ailleurs, le jour où il a été nommé ministre, moi j'ai pris mes deux bouteilles de bière. Mais ce qui commence à nous présenter actuellement, c'est moins du fait qu'il est maintenant mal entouré.
Mm-hmm.
Alors, il doit se faire entourer des belles brebis et non des brebis galeuses.
Est-ce que vous-même, oui, vous êtes étudiant, est-ce que vous avez étudié dans une université qui a été fermée?
Ah non, je ne suis plus étudiant.
Uh-huh.
Il y a longtemps que j'étais étudiant. Je suis un analyste.
Uh-huh.
Je suis un stratégiste politique. Je ne suis pas un étudiant.
Et quand vous faites allusion à la décentralisation des universités, que voulez-vous dire en fait?
Je voudrais dire que dans chaque province, que nous ayons au moins 4 universités. Parce qu'il faut venir voir comment nos enfants étudient à Kindou. Il y en a qui sont à même le sol. Il y en a qui sont debout. Et la boisson circule dans l'auditoire. Et l'enseignant est devant avec un mégaphone qui est en train de cracher et qui enseigne. C'est un jeu de plus de 80 ans. Ah, est-ce que ça va? Ça va? Est-ce que nous devons évoluer comme ça? Donc, il faut qu'il y ait une décentralisation.
Les universités publiques,
en plus l'université.
Donc, qu'il y ait des universités dans toutes les provinces. Merci, Polybé. Merci, Polybé. Oui, pour votre intervention. Nous allons aussi écouter Ladis Tenga. Il est à Mbujimayi. Bonjour. Ladis, est-ce que c'est possible que vous puissiez éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous et suivre l'émission à partir de votre téléphone portable? Comme ça, parce qu'il y a un bruit vraiment autour de vous, dites-nous alors quel est votre avis, vos propositions pour améliorer en fait la qualité de l'enseignement dans les universités et instituts supérieurs.
Ok, merci beaucoup Marie-Chantal. Et voilà, l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays pose de sérieux et de beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre à la fois. Alors, si il faut tenir compte de tous les paramètres, de tous les problèmes, moi j'ai bien compris que j'ai d'abord supprimé prioritaire pour élever le niveau de l'enseignement. Alors, pour élever le niveau de l'enseignement dans notre pays.
Et quelles sont les priorités?
Oui, je vais essayer de réussir pour moi. Je dois d'abord améliorer le niveau de l'enseignement. C'est une question pour moi. Il faut d'abord résoudre le problème des conditions de vie sociale des professeurs. Nous voyons beaucoup de professeurs ne sont pas à temps plein dans beaucoup d'universités. Ils ont des contrats qui sont là. On comprend qu'ils sont mal traités par l'État. Alors, si l'État parvient à résoudre le problème des conditions de vie sociale des professeurs, l'enseignant pourra répandre son. Mon image dans le temps, c'est le Congo avait à l'époque. Il faut aussi financer la recherche scientifique. Nous voyons le déchirement des corps professionnels de la famille universitaire. Alors, tous les professeurs sont dégagés, il faut les mettre en pensée pour l'élève, pour la relève de ce professeur. Actuellement, qui a fait le même, il faut assurer l'enseignement sur les universités au pays. Au cas où tous ces professeurs devenaient incapables et invalides dans l'enseignement. C'est un problème qu'il faut aussi résoudre. Le troisième, il faut vraiment mettre l'accent sur le recrutement des étudiants. Nous voyons les étudiants qui ont un coefficient intellectuel très faible qui ne se compte pas au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Alors, moi-même, je peux mettre un accent sur le recrutement des étudiants dans les universités.
Merci beaucoup, Ladine, pour vos propositions et aussi merci d'avoir appelé. Vous êtes à Boujimaï, où vous nous suivez sur 93.8.
Et si on prenait rendez-vous, juste pour vous agrémenter votre début d'après-midi, 5 jours par semaine pour parler culture, mais aussi femmes et bien-être. C'est tout simplement Métissage, de lundi à vendredi, à partir de 13h, dans le Kinshasa. Avec Jeannot Matouet.
Parole aux auditeurs.
Et vous êtes connectés sur Radio Kaki. Vous suivez son émission Parole aux auditeurs ce lundi. Nous parlons de l'enseignement supérieur et universitaire. Le samedi dernier, c'est clôturé les travaux de la conférence des chefs d'établissement supérieur et universitaire des 11 provinces de la RDC. Environ 600 participants venus de l'ensemble de tout le territoire de la RDC. Ils ont fait un diagnostic de l'enseignement supérieur et universitaire et ont pris des décisions pour l'améliorer. Et aujourd'hui, dans Parole aux auditeurs, pour lancer un autre discussion, nous avons une question. Comment pensez-vous ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités et instituts supérieurs? Nous avons en ligne le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Macha Kovamba. Et aussi, si vous, auditeurs, vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Nous contacter au 081-890-6315. Vous avez le temps de nous donner votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de la ville d'où vous appelez et nous allons nous faire un plaisir de vous rappeler. La seconde possibilité, c'est de nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Monsieur le ministre, j'espère que vous êtes toujours en ligne.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier Monsieur Kenga, Monsieur Polibé, Monsieur Joël. En fait, tout s'insiste sur la rigueur, sur la nécessité de la qualité, sur le vieillissement du personnel et sur le social. Alors, je voudrais dire à Monsieur Joël que il y a des prêtres qui sont qui occupent des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur public. Ils ne sont pas là, non pas parce qu'ils sont prêtres, mais parce qu'ils remplissent les conditions. Je ne prononcerai pas sur la qualité en français parce que je ne pense pas du tout que nos paroisses soient le modèle de la bonne gestion. C'est pour ça qu'ils ne sont pas généralisés. Je pense parce qu'il y a un habit de quelque sorte que ça nous transforme en ça. Nous avons. Vous savez, dans les vaisseaux que nous avons fermés ici à Kinshasa, il y a au moins 3 qui sont dirigés par l'homme de Dieu. Donc, c'est pour vous dire qu'ils faisaient fonctionner des établissements non viables. Et donc, ne font pas croire que parce qu'on a tel type ou tel attribut, qu'on va nécessairement mieux gérer. Et je voudrais aussi lui dire que je suis d'accord avec lui, il faut qu'il y ait la rigueur dans le recrutement. Et c'est pour cela que nous avons demandé à tous les chefs d'établissement de nous donner la liste de tous ceux qui ont été nommés assistants. Le mandat d'assistant de 2 ans, une fois renouvelable. Mmh. Et pour que vous puissiez continuer, il faut publier. Donc, tous ceux qui ont été recrutés pour des raisons sentimentales, ils seraient capables de faire une publication. Nous sommes en train de les faire partir pour qu'ils soient les remplacés par ceux que les jeunes qui nous les feront pourront être en mesure de répondre à ces critères de rigueur. Et nous avons vu qu'il y a des chefs d'établissement qui ont engagé leurs épouses, leurs co-épouses, leurs enfants, leurs frères. Progressivement, nous sommes en train de mettre fin à ces choses-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que vous discutiez avec nos stratèges pour l'idée. Parce qu'en fait, il veut un ministre qui voit, qui parle et qui ferme les yeux. Alors que lui-même se plaint de voir pratiquement des antivaleurs qui est derrière soi. Justement, c'est en instrumentalisant les nominations. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils n'ont pas de compte à rendre ni à la population, ni aux parents, ni à l'État. Et donc, il ne faut pas vouloir une chose de son contraire. Ce ministre doit appliquer les lois. Le ministre ne doit pas inventer des textes de loi. Les textes sont là. Mm-hmm. On les applique à tous ceux qui sont gestionnaires. Et donc, j'ai du mal à comprendre que aujourd'hui on a pris par exemple le CDFIO qui est la négation même de l'enseignement supérieur universitaire. Vous ne pouvez pas produire des licenciés ou des ingénieurs sous les arbres sans aucun enseignant, sans aucun livre de bibliothèque, sans aucun matériel didactique. Effectivement, il faut un financement adéquat, mais ce financement aussi tenait compte de la complexité des besoins dans le pays. Je voudrais donner le chiffre de 1,6 pour 1 000 universités et instituts publics. Mais c'est du saupoudrage. Et donc, c'est une mascarade. On ne peut pas continuer à fermer les yeux lorsque nous avons cette situation.
Mais s'il vous plaît, monsieur le ministre, avant de pouvoir vous redonner la parole, nous allons écouter Théophile de Kananga et Jérôme Kamaté, les députés nationaux. Comme ça, nous allons revenir à vous pour pouvoir conclure cette émission. Bonjour, Théophile.
Oui, bonjour, madame Chantal.
Théophile, quelles sont vos propositions?
Oui, en tout cas, permettez, avant d'aller aux propositions, je voudrais poser une petite question à son excellence du ministre.
Mm-hmm.
Une excellence du ministre, je pense qu'il y aurait des étudiants qui nous sont, si nous nous réunissons, nous pouvons voter un président de la République. Quel est ce président-là? C'est celui qui, son gouvernement, songe sur les étudiants.
Mm-hmm.
Je ne parle pas ici, mais les frères chargés disent qu'on va payer régulièrement la bourse aux étudiants. Je voudrais demander au ministre, est-ce que le paiement de la bourse a déjà eu lieu au cours de cette année académique ou le paiement n'a pas encore eu lieu? Je voudrais qu'il puisse réagir par rapport à ça.
Oui, les propositions, vos propositions.
Okay, je donne les propositions. On y sait que ceux qui ont précédé ont déjà dit, je voudrais tout de même ajouter, pour dire que si on va respecter le principe des rights men, des rights men, des rights pledge, donc il faut à la place qu'il faut. Je crois que les ministres puissent, pour nommer des pères, il faut qu'ils prennent son frère, même s'il ne répond pas aux critères ou aux profils, pour nommer un assistant, il faut faire le ministère. Je pense qu'il va respecter ça.
Merci.
Donc, aussi, même pour moi aussi, des réciclages du personnel enseignant. Parce qu'il y a ça aujourd'hui, donc, avec les anciens membres de l'État, il continue à. Il est là devant comme un roi, il dit qu'il est réduit à une forme, mais ce n'est pas expliqué. Il faut qu'on actualise quand même les choses pour. Aider le pays à aller de l'avant.
Merci beaucoup, merci.
L'enseignement supérieur universitaire doit accueillir la quantité et la qualité des étudiants dont on a besoin dans la province ou dans la société.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci Théophile. Merci Théophile pour votre participation. On écoute aussi l'honorable Jérôme Kamaté. Bonjour, honorable.
Bonjour, madame.
Oui, malheureusement, heureusement, vous êtes le dernier auditeur de notre émission. En bref, quelles sont vos propositions en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire?
En fait, madame, avant de répondre à la question, je voulais d'abord saisir une occasion pour répliquer ce que le ministre a dit. J'ai suivi le ministre qui dit que le budget Au niveau du budget national, l'enseignement supérieur universitaire, ça prend seulement 1,6% du budget. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il espère faire avec 1,6% du budget national pour développer l'enseignement supérieur dans notre pays? Madame, au départ, tout est faussé. On ne peut pas faire quelque chose avec ça. En fait, madame, moi, je voulais plutôt répondre à la question, parce qu'il y a eu, ce qu'on a dit dernièrement ici, un table ronde sur la réforme sur l'enseignement supérieur et universitaire. Je me dis que la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire doit tenir compte de deux choses. La réforme de l'enseignement dans sa globalité, donc vous devez tenir compte essentiellement d'abord avant de la réforme au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, parce que c'est ça, c'est l'enseignement primaire et secondaire qui donne des éléments qui donne la substance à l'enseignement supérieur et universitaire.
Et le deuxième point, parce que nous sommes déjà...
Le deuxième point, c'est un rapport avec l'emploi, avec les besoins du pays.
Mm-hmm.
Parce que nous ne formons pas pour les autres pays, nous formons d'abord pour notre pays.
En tout cas,
quels sont nos besoins?
Merci beaucoup, M. Jérôme. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, le temps de remettre la parole au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour conclure en fait cette émission.
Voilà, merci beaucoup. Je voudrais rappeler que pour le soutien, le gouvernement a signé un protocole d'accord avec les délégués du corps et je peux dire qu'on est conscient que c'est une étape prioritaire. Et de l'autre côté aussi, nous pensons que même si on a un budget faible, on ne doit pas s'arrêter et il y a des choses à côté qui sont en train de se faire parce que les chefs d'établissement savent que ce sont des responsables, des mandataires qui doivent explorer les voies et les moyens pour amener la qualité d'excellence dans leur secteur.
Mm-hmm.
Pour Kindou, ça c'est un dollar. Vous nous donnez l'information pour le fait d'enseignement du diplôme d'un cycle. Là, nous allons interpeller les autres parce que la note circulaire est claire, c'est 75 dollars, pas 150 dollars.
Mm-hmm.
Et donc, je voudrais dire que par rapport aux défis qui sont liés au bout démographique et par rapport à l'obligation de développer le pays, c'est l'excellence, l'assurance qualité et la rigueur.
Les
textes sont relevantes, ça ils existent. Et cette première rencontre de chef d'établissement était l'occasion de rappeler aux uns aux autres de nous regarder dans les yeux, de faire une autopsie pour que nous puissions reprendre une marche en avant.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous suivent en FM ou connectés sur le site www.radiocapi.net. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons poursuivre nos émissions pour célébrer les 50 ans d'indépendance de la RDC. Nous parlerons d'une évolution du budget de l'État. La question, comment réduire l'apport extérieur au budget de l'État. Réagissez dès à présent, nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Tassima Poukou, Nadine Lukemi, Nicole Gassas ont été à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba à la présentation. À demain, à la même heure et sur la même chaîne.